courent autour de cette phrase qui conduit jusqu'à votre chapitre, avec aujourd'hui le mot vivre, pour vivre. Je vais d'abord, puisque nous sommes aussi à mi-parcours de notre semaine, vous lire ce petit passage des Écritures que vous connaissez bien évidemment et vous inviter à être en vérité par rapport à ce petit passage des Écritures que vous connaissez bien sur votre état d'esprit à mi-parcours de cette retraite. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » C'est difficile de faire silence. C'est difficile de rester en place. C'est difficile de ne pas laisser vagabonder son esprit, même pour des bonnes raisons. Ah, il y a un service à faire, il y a un petit truc à faire, il y a encore un petit truc à faire, et puis encore un petit truc à faire. Tout ça, sous un couvert qui peut être effectivement pas si mauvais que ça, de servir et d'être auprès des autres. Mais c'est aussi une fuite. C'est aussi un moyen de ne pas être en place et de ne pas profiter de l'instant présent et de la grâce présente que de se donner un temps pour Dieu et se reposer en lui. C'est une fuite. Tu t'agites pour bien des choses. Il reste encore quelques jours pour moins s'agiter, peut-être, faire un peu la paix intérieurement et accepter que le Seigneur apaise un peu tout ça à l'intérieur et que ces espèces d'ouragans que l'on a en interne qui nous empêchent finalement d'être en tête-à-tête avec lui et en tête-à-tête avec nous, eh bien, puissent s'apaiser un petit peu au moins. C'est aussi le sens d'une retraite. Oh, c'est ni bien ni mal, hein. On fait ce que l'on peut. Mais justement, c'est une manière d'entrer dans la vie que le Seigneur veut pour nous. Parce que nous avons déjà marché, nous avons essayé d'être ensemble, nous avons même, pourquoi pas, envisagé d'aimer, et même plus encore, d'être dans la vérité. Et c'est seulement maintenant que l'on peut vivre, que l'on devrait vivre. C'est seulement maintenant que la vie commencerait. Parce qu'on peut faire tout ça, tout ce qui précède, sans vivre, sans être pleinement à ce que l'on est à faire. On peut être en surface de nos existences. On peut même jouer à vivre et jouer un rôle sans que ce soit nous, effectivement, qui soyons pleinement au cœur de l'action. On peut vivoter. On peut faire semblant. Et parfois, faire semblant, ça dure longtemps. Alors, entendons peut-être un appel à être le plus en cohérence, comme dit Paul, le plus unifié, pour pouvoir être le plus en vérité. Vivre. Quand Dieu crée, il ne s'arrête pas en route. Aujourd'hui encore, malgré les incroyables découvertes de l'homme, sa création reste un mystère. Je ne sais pas si vous avez écouté les informations ce matin, où on vient d'explorer au large du Chili les fonds marins. Et ils ont découvert quantité de nouvelles espèces, enfin de nouvelles espèces. Non, les espèces animales étaient déjà là depuis un bon moment, mais enfin, il vient d'être redécouvert des espèces de crapauds avec des mains, des crapauds de mer, des espèces de bestioles assez bizarroïdes. Mais que l'on continue à découvrir, puisque, vous le savez, seulement 15% des fonds océaniques sont à peu près connus. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de choses à découvrir. Et découvrir du coup du mystère de la création. Depuis les premiers jours, l'injonction de Dieu à l'homme est la même, demeure la même et nous est posée chaque matin. Choisis la vie. Et ce commencement ne cesse d'être réitéré tout au long des récits bibliques, comme si Dieu, qui connaît les difficultés de l'homme, ses errements, ses souffrances, l'encourageait toujours à persévérer. Vivre envers et contre tout. C'est bien à cela qu'il appelle l'homme depuis le premier jour de sa création, lui promettant de partager, dans un ultime geste d'amour, sa vie divine et son éternité. Choisis cette vie. Vivre, c'est peut-être le premier des commandements, finalement. C'est pourquoi la Bible rapporte certaines histoires, peu édifiantes pourtant, mais qui néanmoins ont privilégié la vie. La vie selon l'Évangile ou la parole de Dieu, même dans toute son histoire, n'a rien à voir avec une politesse bourgeoise d'une vie qui serait comme il faudrait, comme certaines conceptions le voudraient. Vivre, c'est pas être poli. Vivre, c'est pas être juste gentil. Ça, c'est pas vivre. C'est pas la vie selon Dieu. Vivre, c'est autre chose. Et cette vie, elle est proposée même à des gens pas très fréquentables. Pour parler de la vie dans le Premier Testament, commençons par une petite question de catéchisme. Dans le livre de la Genèse, quel est le commandement que Dieu a laissé à l'humain? La réponse la plus courante est quelque chose du genre « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal ». Cette réponse correspond au mieux à la moitié, voire à une infime part de vérité, car le commandement biblique dit exactement « Tu mangeras de tous les arbres du jardin. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Combien y avait-il d'arbres dans le jardin? 100? 1000? 10 000? L'histoire ne le dit pas. S'il y avait 1000 arbres, le commandement prescrit « Tu mangeras de 999 arbres, tu ne mangeras pas d'un arbre. » Je répète la phrase, hein. « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Le commandement comporte deux parties, un permis et un interdit. Et le permis est 1000 fois plus important que l'interdit. Le plus souvent, nous ne retenons que l'interdit. Il suffit qu'on nous empêche de toucher un pot de confiture pour avoir envie d'y mettre le doigt. C'est pourquoi nous devons entendre que le commandement est d'abord un permis. Tu mangeras. En hébreu, le texte dit exactement « manger, tu mangeras », ce qui accentue le caractère impératif du commandement. Une autre façon d'interpréter le commandement est de dire « tu vivras ». Manger, c'est vivre. Dieu ne veut pas nous restreindre ou nous éteindre. Il nous place dans le jardin pour que nous vivions. Manger de tous les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger de tous les fruits? Alors, j'aime bien cette petite expression d'un rabbin. J'aime bien les rabbins parce qu'ils ont toujours une manière d'expliquer ou de prolonger la parole de Dieu qui est assez savoureuse. C'est le rabbin Samson Raphaël Hirsch, qui est un Allemand, vivait au XIXe siècle, et qui passait ses jours et ses nuits à étudier la Torah, dit-on. Un jour, il étonna ses disciples en annonçant qu'il partait en vacances en Suisse. Il justifia son projet en déclarant « Je suis vieux et je vais bientôt mourir. Je serai alors en présence du Tout-Puissant et j'aurai à répondre à un grand nombre de questions. Mais que dirai-je si Dieu me demande « Samson, as-tu mangé de tous les fruits ? As-tu remarqué comme mes alpes sont belles ?» Pour ne pas être ridicule devant le Tout-Puissant, il me faut aller en Suisse. Je pourrai alors répondre « Oui, Seigneur, tes Alpes sont magnifiques. » Vivre et vivre. Pour revenir à l'arbre qui est au milieu du jardin, les commentaires rabbiniques ont relevé qu'il s'agit tantôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tantôt de l'arbre de vie. Comment peut-il y avoir deux arbres au même endroit ? L'un d'entre eux répond qu'il s'agit en fait du même arbre, ce qui revient à dire que le commandement qui dit « Tu écouteras le Seigneur ton Dieu, tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions » dans le Deutéronome 27, est le même que celui qui dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Deutéronome 30, verset 19. Ce choix n'est pas à la frontière du jardin. L'arbre est au milieu du jardin, au centre, comme il est au cœur de notre vie. La Bible nous rappelle que c'est tous les jours qu'il faut choisir la vie et pour cela renoncer aux œuvres de mort. C'est tous les jours qu'il faut choisir la liberté et pour cela renoncer à la quête de tous les possibles. C'est tous les jours qu'il faut choisir l'amour et pour cela renoncer au repliement sur sa petite expérience seulement, s'ouvrir aux autres. Le plus grand commandement. Dans un débat, des maîtres rabbiniques du second siècle s'interrogent sur la question de savoir quel est le plus grand commandement de la Torah. Rabbi Akiba apporte une réponse qui nous est familière. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Lévitique 19. Un autre sage, Ben Azaï, propose une réponse étonnante. Selon lui, le plus grand principe de la Torah est le verset qui dit « Voici l'histoire des générations de l'homme, Genèse 5. Pour ce maître, l'amour est important, mais le combat de la vie, symbolisé par la succession des générations, est encore plus important. » Dans ce débat, les évangiles prennent plutôt le parti de Rabbi Akiba, puisque Jésus a résumé la Torah dans le commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta personne et ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22. Mais le Nouveau Testament n'ignore pas la position de Ben Azaï. Si nous nous souvenons qu'il commence par une généalogie qui va d'Abraham à Jésus. Matthieu, 1er chapitre. Cette généalogie patrilinéaire égrène les noms de 42 bonhommes et de 4 femmes. Tamar, Rahab, Ruth et Bethsabée, qui ont en commun de ne pas avoir toujours eu une vie moralement exemplaire, mais qui toutes ont été des combattantes de la vie. Tamar était cananéenne et elle s'est faite passer pour une prostituée afin d'avoir un rapport incestueux avec son beau-père pour faire valoir ses droits. Genèse 38, famille de Jésus. Rahab habitait à Jéricho. Elle aussi exerçait le plus vieux métier du monde. Elle a protégé les espions d'Israël, car pour elle, l'hospitalité était plus importante que la raison d'État. Josué, chapitre 2. Ruth était moabite, mais elle est restée fidèle à sa belle-mère et lui a offert une descendance en se couchant aux pieds d'un riche cousin. Ruth, chapitre 1. Si vous voulez lire très rapidement un livre complet de la Bible et pouvoir dire « j'ai lu un livre complet de la Bible », ça vous est déjà arrivé bien sûr, mais si vous avez envie de retenter l'expérience, lisez le livre de Ruth, ces 4 pages. Bethsabée, mariée à un Hittite, était adultère et elle s'est battue pour faire valoir ses droits parmi les épouses de David. Second livre de Samuel, et chapitre 11-12. Dans la famille de Jésus, dans cette généalogie de Matthieu, Tamar, la prostituée, Rahab, la prostituée, Ruth, qui finit par coucher avec quelqu'un d'autre pour rester, en tout cas en se coupant de son peuple et de son histoire, Bethsabée, une femme adultère. Alors vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vivre à la bourgeoise, ça veut dire en gros avoir comme une espèce de lignée familiale où tout est merveilleux, où il n'y a aucun problème. En tout cas, Jésus ne pourra pas en dire autant. Parmi ces 4 femmes se trouvent donc une incestueuse, une courtisane, une étrangère, une adultère. Leur vie sentimentale a été agitée et pourtant elles sont entrées, parfois par effraction, dans la généalogie du Messie. Si elles ont reçu cet honneur, c'est parce qu'elles ont choisi la vie. Elles ont été des merveilleuses mères, veilleuses, des mères veilleuses. Pour illustrer ce choix de la vie, arrêtons-nous sur l'histoire de Ruth, la Moabite. Lors d'une étude biblique sur le livre de Ruth, avec des personnes d'origine africaine, une d'entre elles m'a dit « Finalement, l'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'un couple qui émigre parce qu'il n'y a rien à manger dans son pays. Là, il rencontre le grand malheur et la femme se trouve seule avec sa belle-fille. Elle lui dit alors de se débrouiller pour épouser un riche afin qu'elle ne meure pas de faim. » Et elle ajouta « Des histoires comme ça, dans les milieux de l'émigration, on en connaît tous. » Cet interlocuteur avait raison. L'histoire de Ruth est assez quelconque. Mais alors une question se pose. Pourquoi est-elle dans la Bible? Les commentaires disent que c'est à cause de la faim, parce que l'enfant que Ruth a eu avec Boaz était le grand-père de David. Le livre de Ruth est dans la Bible pour expliquer pourquoi David a eu une aïeule moabite. Alors qu'un verset du livre du Deutéronome déclare pourtant solennellement « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée du Seigneur, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'Assemblée du Seigneur, il en est ainsi pour toujours » Deutéronome 23. D'un côté, le Deutéronome déclare que la Moabite n'entrera jamais dans l'Assemblée du Seigneur, et de l'autre, le roi David à une arrière-grand-mère moabite. Pour la Bible, l'amour et la fidélité dont Ruth a témoigné en faveur de Noémie et son combat pour offrir un avenir aux siens sont plus forts, plus importants que l'interdit qui repose sur son peuple. Si la loi rappelle que l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée du Seigneur, c'est du fait de leur origine incestueuse. Ces 2 peuples sont en effet les descendants des 2 garçons que les filles de Lot ont eus avec leur père. Si Ruth est néanmoins entrée dans cette généalogie, c'est du fait d'une autre lecture de l'épisode des filles de Lot. Selon cette autre lecture, lorsque Lot et ses filles se sont enfuis de Sodome et lorsque le feu est tombé sur la ville, les filles ont pensé que le monde entier avait disparu sous le déluge de feu et qu'elles étaient les seules survivantes. L'alternative qui se présentait à elles était alors la suivante. Soit elles ne faisaient rien et l'espèce humaine disparaissait, soit elles avaient un enfant et cela ne pouvait être qu'avec leur père. Les filles de Lot ont préféré la vie au prix de l'inceste à l'extinction de l'humanité. Le commentaire poursuit en disant que, dans le malheur, la femme de Lot a regardé derrière elle et qu'elle a été transformée en statue de sel. alors que les filles de Lot ont regardé devant et qu'elles ont été à l'origine de deux grands peuples. Elles ont choisi David. J'ai fait exprès de passer par ces textes-là, un petit peu des textes dont on n'a pas nécessairement l'habitude, ou du moins qui peuvent porter question sur ce sens de la vie. Mais c'est pour décaper, peut-être même raboter, nos représentations. Parce que bien souvent, et je ne sais pas pourquoi, c'est installé dans notre inconscient, même dans notre conscient religieux, un tel poids d'une espèce de moralité que personne n'arrive à vivre quand on regarde les familles des uns et des autres, où tout devrait être, je ne sais pas quoi, correspondre à une image qui n'existe pas. Alors que nous avons tous et toutes dans nos familles, des morts dans les placards, comme on dit, des choses dont on n'est pas, entre guillemets, correspond. C'est assez étrange parce que ça, c'est la réalité partagée par toutes les familles du monde. C'est la réalité, mais on préfère cacher, couvrir d'un voile pudique, peut-être même parfois mentir, pour correspondre à une idée, à un imaginaire qui n'est même pas celui de la parole de Dieu. Rappelez-vous, courtisanes, prostituées, étrangères sont dans la lignée de Jésus. Et nous, on voudrait, je ne sais quoi, courir après une certaine... ce qu'on appelle perfection, mais qui n'a rien à voir avec la vie comme elle est. Dieu n'a pas eu peur de se compromettre avec Jésus dans la réalité de nos existences, sans les juger, sans dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est nous, ça. Et ce qu'on appelle bien, c'est quelque chose qui n'existe que très peu, voire pas du tout. C'est dingue quand même, comment on a pu pervertir quelque chose de la vie selon Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on fasse tout et n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas ça qu'on dit non plus. Mais au moins, d'avoir cette vérité en nous, de considérer que les existences que nous vivons, que nous traversons, même dans ce qu'il y a de plus compliqué parfois, ne sont pas à rejeter immédiatement ou à couvrir ou couvrir d'une espèce de honte parce qu'on ne correspondrait pas à un imaginaire qui n'a rien à voir avec la Bible. Pour ça, évidemment, ça suppose de connaître la Bible. Ça suppose de la connaître. Ça suppose de fréquenter les textes. Ça suppose pas de les lire qu'une seule fois et de l'oublier le lendemain, mais de les fréquenter, de les travailler, de voir justement tous ces rapports. Qui parmi nous connaissons, justement dans cette généalogie de Matthieu, je vais la lire, et vous allez, juste pour vous, me dire combien de prénoms vous connaissez, combien d'histoires vous connaissez, par rapport à ces prénoms qui sont évoqués. Vous les notez simplement pour vous, hein, c'est évident, hein, parce que je pense que ça ira vite. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, ça va. Fils d'Abraham, ça va. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, ça va encore. Jacob engendra Judas et ses frères. On commence déjà. Judas, de son union avec Tamar, maintenant vous savez qui c'est, engendra Phares et Zara. Zara, c'est pas simplement un magasin de... Vous verrez qu'il y a plein de noms de magasins, vous allez voir. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Alors là, on est paumé. Hein. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Ah, celui-là, on le connaît. On en a parlé il y a 2 secondes. Boaz, de son union avec Ruth, oui, engendra... le grand-père de David, ça c'est son père, son grand-père. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, ah ça va marcher là. de son union avec la femme d'Urias, la fameuse Bethsabée, engendra Salomon. Et là, de nouveau, on est perdu. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias, ça commence à venir, mais c'est pas le même. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz, on a déjà entendu. Akaz engendra Ézéchias aussi, le fameux tunnel. Ézéchias engendra Manassé. Oui, c'est sur le champ de temps en temps. Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Alors là, tout le monde le connaît celui-là, mais personne ne connaît son histoire. Salathiel engendra Zorobabel. Rien à voir avec le Zoro de notre enfance. Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakam, Eliakam engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Elioud, Elioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, et là ça va mieux, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Ça en fait des trous quand même. Moi le premier, hein, je ne fais pas le malin, hein, prenez bien. Ça en fait des trous. Ben, ces trous, c'est peut-être des appels, justement, à se dire, oula, j'ai encore quelques bouquins à lire. Et je reviens au premier. Tu t'agites intérieurement. Tu fuis ce livre. Tu fais autre chose que ce qui est essentiel, d'écouter cette parole, comme Marie est au pied de la parole. Aïe, aïe, aïe. Alors, oula, il est déjà l'heure. Je vais vous distribuer la feuille du jour. Il a été jusqu'au bout, non, pas tout à fait, presque. Quelques questions, comme d'habitude, en écho à ce que nous venons de méditer. Qu'est-ce qui vous rend unique et précieux au sein de l'existence humaine? Plutôt que de se comparer aux autres, cette question incite à explorer ses propres talents, passions et contributions uniques au monde. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'accomplissement et de joie profonde? Qu'est-ce que vous seul pouvez apporter à l'humanité? Si vous pouviez revivre votre vie en sachant ce que vous savez maintenant, que changeriez-vous et pourquoi? Cette question incite à réfléchir aux choix passés et à leur impact sur notre vie actuelle. Quels regrets nourrissez-vous? Quelles leçons avez-vous apprises? Si vous pouviez recommencer, quelles décisions différentes prendriez-vous et pourquoi? Quelles traces souhaitez-vous laisser après votre passage sur Terre? Cette question incite à réfléchir à l'impact que vous souhaitez avoir sur le monde. Quel héritage souhaitez-vous laisser derrière vous? Comment souhaitez-vous être perçu par les autres? C'est une invitation à réfléchir à vos valeurs profondes et à l'impact que vous souhaitez avoir sur la vie des autres. Et attention, hein, pas de fausse humilité par rapport à ça. Vous savez, l'humilité, comprise parfois dans nos, dans notre belle église et n'a rien à voir avec l'humilité vraie. La Vierge Marie, qu'on ne pourra pas taxer de ne pas être humble, on est d'accord, c'est un modèle d'humilité. Qu'est-ce qu'elle dit quand sa cousine Élisabeth lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Est-ce qu'elle va dire « Oh, tu crois ?» Oh non, non, non. Toutes les femmes, quand même pas. Peut-être Nazareth, mais c'est pas plus. Ça, c'est notre humilité à nous. Nos fameux machins ont rougi, mais qui nous fait tellement plaisir intérieurement quand on nous fait un compliment. Pourquoi vous toussez, Marguerite ? La Vierge Marie, elle a certainement pas fait un « Oh, tu crois ?» Non. Elle, ce qu'elle a dit, c'est « Ouais. » Et toutes les générations me diront « Bienheureuse. » Et là, on est venu dire « se calme. » Enfin, mais c'est ça, la véritable humilité. C'est pas faire semblant, c'est pas faire des petites bondieuseries, c'est pas faire des mesquineries, c'est pas faire des « Comment c'est tellement le faire ?» C'est « Oui, le Seigneur est dans ma vie et je vis de lui. Oui, je suis en vérité. Oui, je suis sa fille, je suis son fils. Et je l'assume et je le vis et ça me réjouit. » Et pas du « Il n'y a rien de pire que ça. La Vierge Marie, qu'on ne pourra pas taxer d'orgueil, balance sans complexe toutes les générations, ça va, ça fait du monde, hein, me diront, moi, bienheureuse. Comme petit texte de méditation, justement, je reprends ce passage que j'ai nommé, cité plusieurs fois, du Deutéronome 30. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, Pierre Bonhomme, etc. Choisis donc la vie.